Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission qui aime le polar, le roman noir.
Et le rock.
Et le rock, bien sûr. Et même le jazz et la country.
Oui, bien sûr. La musique en général et la musique des mots. Et nous allons commencer cette émission par un très grand coup de cœur. C'est un roman que j'ai lu il y a quelques mois, mais on n'a pas pu vous en parler tout de suite. Un roman qui détonne à tous les sens du terme. Ce roman s'appelle « Ces montagnes à jamais ». Et nous découvrons un nouvel auteur, Joe Wilkins, grâce à la très, mais j'insiste, très belle traduction de Laura Derajinski, publiée par les éditions Gallmeister. C'est un livre qui est sorti en mai, ou peut-être avril, là j'ai peut-être un doute, mais c'est pas grave, il est disponible, de toute façon il est disponible.
Et tu disais qu'il détonne ?
Ben oui, parce qu'il fait partie du Nature Writing, la nature des grands espaces, pardon, les livres des grands espaces chers aux éditions Gallmeister, mais si la description des paysages du Montana sont parfois à couper le souffle, contrairement à beaucoup d'autres romans, ça donne pas tellement envie de partir immédiatement pour ces grands espaces.
Dans ce roman, nous allons faire donc la connaissance de quatre personnages qui sont liés, comment dire, inexorablement.
Oui, 2 × 2. 4 = 2 × 2. Il y a d'abord Wendell, paumé, ouvrier agricole, enfin, là-bas, employé dans un ranch, on dit. Une vie misérable dans un mobile home. Sa mère vient de décéder, jusqu'au moment où on lui confie un gosse paumé. Ce gamin s'appelle Roddy, c'est son cousin, et la mère du gosse vient d'être emprisonnée. Et là, on sent tout de suite que Wendell y redresse les épaules. Et tout à coup, parce que peut-être il va s'occuper de quelqu'un, il peut être un père pour Roddy, il semble trouver un sens à sa vie. Pas loin de là, vivent Gillian et Maddie, mère et fille. C'est une histoire sur la filiation, c'est évident. Et Gillian et Maddie n'évoluent pas dans le même milieu. Gillian est enseignante, Maddie est étudiante. Gillian est veuve, elle est prof, enfin directrice d'école, attachée de direction, dans l'école où justement est inscrit le très très mutique Roddy.
Et donc, les voilà les quatre réunis en fait.
Ah, pas c'est pas encore, il y a beaucoup plus, savamment beaucoup plus de circonvolutions que ça. Et au moment où une meute d'humains, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, veulent relancer la chasse au loup, bien petit à petit, c'est pour ça que ça va très lentement, Maddie et Wendell font connaissance, tout les sépare, tout. Mais en fait, ils sont liés par le sang. Parce que, il faut que vous suiviez là, soyez attentifs s'il vous plaît, le père de Maddie a été tué par le père de Wendell. Père de Wendell qui s'appelle Verl et qui est à la tête de chasseurs de loups. Enfin, tout au moins d'un groupe, d'une espèce de milice. Et le père de Maddie, Kevin, irrémédiablement en face, contre, il était garde forestier. Et Joe Wilkins, c'est un nouveau venu dans le paysage du roman noir. Il monte une histoire digne du plus noir et du plus pur des drames antiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Macbeth est évoqué. La tension va monter entre ceux qui pensent avoir toute liberté sur le territoire. Là, je vais vous citer un petit extrait, vous entendez le livre qu'on ouvre. Donc c'est Gillian qui s'exprime. « Tous ces hommes violents, ignorants et arrogants dans ces montagnes, à ceux qui pensaient que l'Est du Montana tout entier leur appartenait et qu'ils pouvaient y agir à leur guise, qu'ils oubliaient avec une facilité déconcertante que leur arrière-grand-père avait reçu ses terres gratuitement, que leur grand-père avait provoqué le Dust Bowl, que leur grand-père et leur père avaient empoisonné les rivières et presque décimé la population de cerfs, d'antilopes, progornes et de grouses, et que le gouvernement fédéral était à intervenir à chaque fois, de l'installation d'un réseau électrique dans les régions reculées jusqu'au prêt des terres gouvernementales pour laisser paître le bétail, en passant par les contrats de location très généreux afin de subventionner ce mode de vie dont ils se vantaient toujours. » Donc eux, c'est ce qui semble les très méchants. Et puis, il y a ceux qui, comme le mari de Gillian, étaient là pour préserver la nature, pour essayer de défendre les rivières, les antilopes, les loups, en particulier les loups. Et puis, des convictions, on va dire, un petit peu plus démocratique. C'est donc deux mondes qui s'affrontent. Et dans cette rue de terre où, je cite l'auteur, « seules les étoiles sont extravagantes », bien malin est le lecteur qui, à l'instar de l'écrivain américain, peut prendre position. Certes, Verl et ses acolytes semblent sauvages et sanguinaires, Ils ont détruit une partie de la nature. Mais ils sont aussi les héritiers de ceux qui ont arraché à la Terre un moyen de survivre, vraiment de survivre. Au temps où, je cite encore Joe Wilkins, la loi et les terres étaient ce que l'on en faisait. Ceux d'en face semblent des érudits, des cultivés, certes, mais ils sont souvent venus d'ailleurs. Et si leur combat sonne juste, ils sont aussi les représentants d'un État fédéral qui ignore, voire méprise, les plus humbles de ses habitants, justement à l'est du Montana, entre autres. Et comme le dit très justement Verle, le père de Wendell, donc meurtrier du père de Maddie, en contemplant un jour les cimes, enfin plutôt un soir les cimes, les contours d'un paysage qui épouse parfaitement les nôtres. C'est vraiment, je l'ai déjà dit au départ, je me répète, c'est un très grand roman, servi par une écriture resserrée, une économie de mots, comme doivent être d'ailleurs les habitants de ce coin du Montana. Mais qui sait se faire lyrique devant les beautés de la nature, et surtout, surtout, c'est une des beautés de ce roman, bienveillante, chaleureuse, pour évoquer un homme, une femme, ravagée, paumée, au fond du trou, mais est-ce qu'il y a vraiment un fond à ce trou? Voilà, donc je répète, ça s'appelle « Ces montagnes à jamais », Joe Wilkins, avec une très belle couverture, il y a un loup qui court, va-t-il être sauvé?
Traduit par Laura Derajinski,
voilà. Aux éditions Gallmeister au printemps.
Ben, la musique, on va rester dans le Montana, avec une chanson de Frank Zappa qui s'appelle « Montana ». On va écouter la première version qui est parue dans l'album « Overnight Sensation » en 1973. Et si vous prêtez bien l'oreille, vous pourrez entendre dans les chœurs, après le solo de guitare, Tina Turner. Là, l'histoire de la chanson, c'est un homme qui s'en va dans le Montana pour cultiver du fil dentaire. C'est dire comment il les aimait dans le Montana, Frank Zappa.
Et comment il pouvait être d'avoir ce côté un peu en absurdie.
Tout à fait. Montana, Frank Zappa and the Movers.
Be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss.
Raising my lonely dental floss.
Well, I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down. Pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana.
Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
Yes, I am.
Moving to Montana soon. A mental toss like we'll be right back.
I'm gonna find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy-duty zircon-encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push, just me and the pygmy pony over by the dental floss bush. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn of Montana.
Into Montana soon.
Yippee-i-yo-tie.
Into Montana soon.
Yippee-i-yo-tie.
Into Montana soon.
Yippee-i-yo-tie.
Into Montana soon.
Yippee-i-yo-tie.
Move into Montana soon.
Joe Wilkins et ce génial et délirant morceau de Zappa, on ne quitte toujours pas le Montana et on y revient avec un polar avec les deux enquêteurs de Keith McCafferty qui s'appelle Martha Edinger et Sean Stranahan.
Stranahan. Apparemment, tu les connais, ces enquêteurs, mais pourtant, tu ne nous les as jamais présentés. Ce sont des personnages récurrents ?
Ben oui, en fait, c'est le troisième roman de McCafferty qui est traduit chez Gallmeister. Mais c'est le premier dont on parle dans Nos ondes noires.
Donc tu vas nous les présenter maintenant.
Exactement. Il y a d'abord la shérif, Martha Ettinger. Martha, c'est un peu une version féminine de Walt Longmire.
Donc, alors, c'est le personnage de Craig Johnson, qui
voilà.
Est une des vedettes des éditions
bon,
Gallmeister.
Sauf qu'évidemment, au lieu d'être dans le Wyoming, ils sont dans le Montana, on l'a dit. Mais donc, en fait, une version de Walt Longmire qui aurait les avantages de son adjointe, Vic Moretti.
Toujours dans les romans de Craig Johnson.
Voilà. Donc, Martha est une femme déterminée qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. On est dans... Le Montana est un monde quand même très macho. Elle monte à cheval, elle conduit sa Jeep, dont elle sait se servir aussi bien que de son Colt Ruger 357. Elle a un bon gros chien qui s'appelle Goldie.
Ah ben ça, c'est une différence par rapport à Craig Johnson, parce qu'il a aussi un très gros chien, mais il n'a pas de nom.
Voilà,
il s'appelle le chien.
Et elle a beaucoup d'humour et d'autodérision. Le deuxième personnage, je l'ai cité, s'appelle Sean Stranahan. Il est détective privé et guide de pêche. Je rappelle qu'on est dans le Montana, il y a plein de rivières. Il vit dans un tipi Sioux et il est souvent embauché par la shérif pour l'aider dans ses enquêtes. Comme il y a eu une certaine inclination entre les deux personnages qui dépasse probablement la simple estime professionnelle.
On voit vraiment pas où tu vas en venir.
Exactement.
Non, mais vraiment.
Je disais deux personnages, mais en fait, il y en a un troisième. Harold Littlefeather.
Ah.
Donc, Littlefeather, ça veut dire petite plume. Il est indien, vous vous en doutez. C'est un indien Blackfeet. Il a beaucoup d'activités, mais dans les enquêtes de Martha, il intervient comme pisteur. Puisqu'il est un indien, il est capable de repérer beaucoup de traces dans la montagne.
C'est pas impensif, ça, monsieur.
Non, mais c'est un peu ça. Et il représente aussi, ça c'est peut-être plus impensif, mais en même temps c'est comme ça que c'est fait dans le roman, un peu la sagesse ancestrale des natives américaines.
C'est un peu comme le gros ours dans Little Big Bear. Enfin...
Un peu comme l'indien dans...
Voilà, le meilleur copain de Walt Longmire.
Voilà. Par contre, là, c'est... Alors, je ne me souviens pas dans Longmire, mais là c'est un super beau mec avec une longue natte. Et lui aussi a été intime avec la fliquette, mais il est retourné auprès de son ex-femme. Pour vous donner une idée du ton du livre, je vais vous lire un court extrait. Mais en fait, avant de vous lire un extrait, je vais d'abord vous donner le nom du livre, qui s'appelle, le titre du livre, c'est « La Vénus de Botticelli Creek ». L'auteur, donc, j'ai déjà dit, c'est Keith McCafferty. Et la traductrice, c'est Yannick Jouin de Lorenz. Donc, le petit extrait, c'est une discussion entre Harold et Martha. Donc, c'est à Martha qui commence. « Tu n'attaches pas ton cheval, dit-elle après un court silence. Il n'y a que les blancs pour perdre leurs chevaux. Je vois que tu as repris ton rugueur, ajouta-t-il après un second silence. Oui, je sais tirer avec. Je n'y arrive pas avec ces foutus automatiques. Et puis, je suis un shérif de l'Ouest. Il faut que je me mette dans la peau du personnage. Tu dois plaire à ton public, une femme aussi célèbre que toi. » Voilà. C'est au tout début de l'intrigue.
Ben justement, là, tu as parlé des personnages, mais si on peut avoir une petite idée de l'histoire, quand même, ce serait...
Voilà, oui. En fait, donc, au début, une jeune femme a disparu. Elle s'appelle Nikita Martinelli. Elle aussi, une fameuse guide de pêche. Et elle était surnommée la Vénus de Botticelli Creek, donc du nom du roman, en raison de ses abondants cheveux roux et d'un fait divers dans lequel elle s'est couchée nue dans une rivière en signe de protestation. Et du coup, l'allusion avec le fameux tableau du peintre italien Botticelli, qui montre une splendide femme rousse et nue. Bon, dans son tableau...
oui, elle est dans une conque, c'est pas...
C'est dans une conque, mais elle est quand même nue, et c'est Vénus, donc c'est la déesse de l'amour. Une peinture de 1485, donc bien avant la découverte de l'Amérique et du Montana. Enfin, le Montana existait, mais il ne s'appelait pas comme ça. Bon, je reviens à l'histoire. Alors que Martha est partie à la recherche de la Miss Martinelli dans la montagne, dans la forêt, elle trouve le corps d'un cow-boy, un vrai cow-boy, empalé sur les bois d'un cerf. Sur les bois, plutôt, de la carcasse d'un cerf. Des bois magnifiques, par ailleurs, néanmoins, le pauvre cow-boy, il est mort. Et du coup, au lieu d'enquêter sur une simple disparition, ils vont devoir enquêter sur une disparition et sur un meurtre. Pour corser le tout, on retrouve une partie du thème du roman de Joe Wilkins dont tu parlais tout à l'heure, avec la réintroduction des loups dans les montagnes du Montana, ce qui crée une forte tension entre les éleveurs, les chasseurs et les partisans de la nature, et évidemment un peu exactement les mêmes dissensions entre l'État et les gens qui vivent là. Enfin,
depuis des siècles, qui veulent
voilà, rester... Et, alors évidemment, Martha, elle représente la loi, quoi.
La loi.
Évidemment, les loups, il y a cette espèce... Là, alors, je ne sais pas s'il est évoqué dans Joe Wilkins, mais là, il en parle beaucoup de leur aura maléfique qui entoure l'histoire des loups qu'on a de chez nous.
Ce sont les légendes, hein,
des légendes,
les
oui,
loups-garous.
Mais là, il y a un personnage qui joue beaucoup là-dessus.
Oh, il doit bien y avoir quelques petites truites, non? Puisqu'il y a plein de rivières, il y a des loups, des cerfs.
Eh bien, évidemment, de toute façon, j'ai parlé deux fois de guide de pêche, donc il y a des truites partout. Il y a toutes les sortes, les fariots, les arcs-en-ciel, les cutthroats. Les cutthroats, c'est les truites endémiques du Montana. Et comme quand le Sean Stranahan, il n'a rien à faire, ou qu'il a besoin de réfléchir, il va au bord de l'eau, il y a de l'eau partout, quand c'est pas dans la rivière, enfin dans la forêt, il monte une mouche sur sa canne à pêche, il pêche et puis il réfléchit.
Ça me fait penser aussi à un autre très 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 beau personnage, c'était au début des éditions Gallmeister, un personnage de guide de pêche comme ça, de William Tapley.
Tout à fait.
Il y avait des passages magnifiques au montage de mouches.
Ah ben là, il y en a aussi où il parle de... Alors évidemment, pour nous, c'est un peu abscon, hein, parce que les différentes sortes de mouches, bien qu'il y ait une petite introduction d'Oliver Guymaster qui explique tout ça au début du roman, mais bon, on n'a pas besoin de savoir, on imagine assez bien.
Donc c'est vraiment un roman estampillé, Nature Writing, édition Guymaster.
Oui, et pas tout à fait, parce que enfin, le tien n'était pas du tout contemplatif non plus, mais c'est vraiment un roman où il y a pas mal d'action, des poursuites à cheval, etc. Et il y a aussi un peu de romance. Par ailleurs, on en apprendra beaucoup sur les loups, sur les cerfs, et sur la nature parfois retorse des humains. Petite parenthèse pour les amateurs de belles machines. Il y a une moto qui va jouer un grand rôle, c'est une Honda CB350 2969, qui s'avère être dans le roman la même que celle qu'avait Jim Morrison en son temps. Sans spoiler l'intrigue, encore une petite précision, il y a une scène de forensique, ça fait bien, il y en a un peu partout dans les romans maintenant, mais celle-là, elle est assez surréaliste, car une scientifique fait en quelque sorte l'autopsie, c'est pas tout à fait ça évidemment, d'une belle crotte de loup ramassée dans la montagne. Et cet étron sauvage, si j'ose dire.
Oh, c'est joli, ça, ça pourrait presque être le nom d'un
native
américain.
Voilà, cet étron sauvage aura une importance capitale pour la plupart des protagonistes de ce roman de M. Keith MacAferty. Je précise qu'on peut très bien lire le troisième sans avoir lu les précédents, avant que tu me le demandes. Parce que moi aussi j'avais lu le premier, mais il y a assez longtemps, je n'ai pas lu le deuxième. Mais on suit très bien, de toute façon, comme toujours, il rappelle ce qu'il a besoin de savoir.
Et on va terminer cette évocation avec un peu de musique qui rappelle Montana encore.
Montana, et là pour une fois, de la musique qu'ils écoutent sûrement là-bas, de la country, de la pure country en live, et de la bonne, parce que c'est Emmylou Harris qui chante Montana Cowgirl.
Emmylou Harris, et on va se rapprocher un peu.
On va quitter le Montana.
On va quitter le Montana, on va revenir en Europe, en Italie. Dans la longue litanie des personnages récurrents, il y a le commissaire sonnerie de l'italien Valerio Varesi. Et c'est un commissaire qui est apparu assez récemment. Son fief, c'est la ville de Parme, qui est d'ailleurs l'autre personnage principal des romans de cet écrivain. Et celui dont je vais vous parler, c'est Or, en sang et poussière, qui est le cinquième roman traduit en français. Il est édité par l'excellente maison d'édition Agulhos.
Tu n'as pas donné le traducteur, ou alors j'ai mal entendu.
Effectivement, d'ailleurs, traductrice en l'occurrence, tu as raison Jacques, son nom est Florence Rigolet.
C'est celle qui avait traduit les précédents, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Un roman avec un début, comment dire, fantasmagorique, presque.
Oui, fantasmé, fantasmagorique, fantastique. Il faut, on est au début, la ville de Parme est dans un brouillard dense, mais il est dense. Et le commissaire, qui est d'habitude plutôt dévolu aux histoires criminelles, doit se rendre bizarrement sur les lieux d'un immense carambolage. Oui, parce que le brouillard brouille tout, fait tout disparaître.
C'est son nom, hein.
Mais exactement. Et seule Sonnerie, qui est un habitué des lieux et qui connaît très bien l'endroit, va pouvoir s'y retrouver, s'y reconnaître. Il arrive avec un adjoint, dans un univers tout à la fois apocalyptique, à la limite du fantastique. une zone étrange, cet immense accident où des dizaines de voitures sont enchevêtrées. Il y a des taureaux, hautement symboliques les taureaux évidemment, qui se sont échappés. Il y a un camp de gens du voyage, un camp de migrants pas loin. Et ce brouillard qui semble aussi bien dans les têtes que dans la nature.
Magie de l'écriture, si on peut dire. Le commissaire va quand même, dans ce brouillard brouilleux, découvrir un cadavre.
Bah oui, encore une fois, j'ai
quand
dit
même
qu'il était...
intrigue, oui.
Non, ça aurait pu être autre chose. Mais il est dévolu aux histoires criminelles, donc effectivement. Et ce cadavre, pas n'importe lequel, un cadavre carbonisé, abandonné dans un talus. Une jeune femme, apparemment, et ça va se confirmer. Tous les sens du commissaire sont désormais en alerte. Il est sur une affaire intéressante.
Enquête classique, un meurtre, un commissaire?
Oui, non. Oui, car le commissaire est un flic tout à la fois à l'ancienne et à l'instant. À la manière de Erlendur, si vous voyez le flic de l'Islandais Indridason. Sonnerie vient et va, revient sur les lieux du crime, discute inlassablement avec d'éventuels témoins et suspects. Les fausses pistes vont être nombreuses, les rebondissements aussi. En plus, Sonnerie n'a que peu d'intérêt pour les techniques modernes. L'informatique, alors ça le dépasse complètement. La forensique, comme on
en parlait tout à l'heure. Ouais.
Voilà. C'est-à-dire la police scientifique, tout ça, ça l'agace. Il prend son temps. Donc, il y a effectivement une enquête classique, mais il y a bien d'autres cheminements, on va dire.
D'ailleurs, tu ne nous as pas dit grand-chose de cette enquête pour l'instant.
Tu as encore raison. La jeune femme, immigrée roumaine, son nom, il le découvre assez vite, c'est Nina Iliescu, très jolie femme.
Avant d'être carbonisée.
Oui,
voilà.
C'est ça, très jolie femme, puisqu'on découvre rapidement qu'elle avait de multiples amants, et dans les hautes sphères, dans la haute société... Parmesan, on dit ?
Mais ça... Oui, je crois, oui.
Oui, donc de Parme, en tout cas. Alors, on hésite, enfin, plutôt le commissaire hésite. Crime passionnel, crime mafieux pour des trafics, crime gratuit, Sonnerie est encore une fois dans le brouillard. Bien évidemment, et je ne spoil absolument rien, il va trouver le coupable et le mobile. Mais l'intérêt de ce roman, comme les quatre précédents, ce n'est absolument pas la résolution en elle-même. Ce sont les errances, métaphoriques et réelles, de ce personnage attachant. Donc je parle du commissaire Sonnerie.
Si je te comprends bien, tu veux dire qu'il se balade et qu'il nous balade.
Oui, il nous balade tout d'abord dans la ville de Parme, que l'on découvre sous ses pas, les petites places, les ruelles, les impasses. Beaucoup d'impasses, évidemment. Et puis il nous balade dans le passé de la ville.
Les impasses qui ne sont pas que physiques, métaphoriques.
Comme je l'ai dit, on est tout dans la métaphore. Il nous balade dans le passé de la ville, donc, disais-je, Sonnerie est un grand nostalgique d'un temps où l'honneur et une certaine morale permettaient aux plus humbles de survivre. Aux plus humbles, pardon, il y a un H. C'est d'ailleurs un thème que l'on retrouve depuis le premier roman, qui s'appelait Le fleuve des brumes, où la plaine du Pô était non pas dans le brouillard, mais sous un déluge, et devinez, qui brouillait là encore toutes les pistes.
Tu viens de le dire, me semble-t-il, le fleuve des brumes, c'était la première enquête, enfin du moins la première traduite.
Oui, c'est le premier roman traduit. Et il nous baladait déjà le long du fleuve et dans, chez les petites gens qui travaillent et qui vivent de ce fleuve-là. Et ici, on va aller plutôt dans le monde des migrants, sacrifiés, rejetés, les communes de l'Est... Qui viennent de pays de l'Est, donc en proie à l'ostracisme, au racisme, et qui, évidemment, ne sont pas blancs-bleus, parce qu'ils vivent souvent de petits ou de plus grands trafics. On parlait de balade, c'est aussi la balade intérieure pour le commissaire. Comme à son habitude, il utilise sa propre histoire pour comprendre, se rapprocher des autres. Et pourtant, dans cet épisode, il est très déstabilisé. Car sa compagne Angela, qu'on connaît depuis le début, et ma foi, ça se passait plutôt fort bien, et bien là, elle est prête à le quitter, elle a un amant. Ce sont donc des flâneries intérieures bien obscures que nous livre là le commissaire Sonnerie. Mais évidemment, nous, les amateurs de romans noirs, on trouve que ce sont les plus intéressantes.
Un mot de la fin pour conclure ta...
Alors, le mot de la fin, certes, mais je ne vais pas raconter la fin.
Ah ben, il vaut mieux pas.
Mais simplement dire que la grande qualité de ce roman, et j'ai souvent évoqué les précédents, c'est cette brume cette brume qui arrive à distiller constamment Valerio Varez. On est toujours à la frontière de plusieurs vérités. On est à la lisière de mythologie, de mythes. On est à la lisière de cauchemars et des réalités. Pas de blanc, pas de noir. Le doute est constant. Le doute, le propre de l'homme, n'est-ce pas?
Comme disait l'autre, voilà. On va dire.
Donc, aux éditions Angulo, hein, y en a plein des bons, mais vraiment, le personnage du commissaire Sonnery et l'écrivain italien Valerio Varesi, c'est de la meilleure eau. Et tu nous as choisi un morceau de musique qui va sonner d'où l'italien, si je ne m'abuse.
Ben en fait, le titre du roman s'appelle « Or, en sang et poussière ». On va écouter un extrait d'un album d'un italien, et l'album s'appelle « Or, en sang et bière ». Déjà, ça rime avec « Or, en sang et poussière ».
Quand tu m'as parlé de ce morceau, je me suis d'ailleurs demandé si Valerio Varesi n'était pas un inconditionnel.
C'est pas impossible, il faudra lui demander si jamais on le rencontre.
Non, j'espère.
Donc en fait, l'album en italien s'appelle Ore Insanse e Birra. L'auteur, le chanteur, c'est Zucchero. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle El Diavolo in Me, le diable en moi, ce qui va peut-être bien aussi avec le roman.
Avec certains des personnages, tout à fait.
Zucchero.
Sanctify, sanctify, sanctify your soul, sanctify, amen. I've got the devil in me. Oh, perché c'è un diavolo.
pas après. Quero, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Une grande famille. Il est écrit par Ika Arada. Il est publié aux ateliers Akatombo et traduit par Saeko Takeshi et Stéphane de Torca.
Avec les publications de l'atelier Akatombo, on sait qu'on file droit au Japon.
Au Japon, à Tokyo même ou dans les environs. Le pitch du roman Ai Tika. Alors, c'est toujours un peu le problème avec les romans chez Akatombo. Il faut s'entraîner pour prononcer les noms. Ai Kitazawa. Elle a la trentaine. Elle vient de divorcer, puis de perdre son boulot. Et elle retourne vivre dans la vieille maison familiale, dans la grande banlieue de Tokyo. Dans cette baraque vit Takato, sa mère, et Yasu, sa grand-mère, donc la mère de sa mère.
C'est pas très polar tout ça, une histoire très banale.
Ça ressemble à une histoire très banale, mais ça ne va pas durer. En fait, l'histoire est au début assez malicieuse, et elle va assez vite devenir carrément vénéneuse. Je vous en raconte un petit peu plus. Il n'y a pas vraiment d'hommes dans le roman, à part les nombreux que collectionne Takato, la mère, entre autant de bouteilles. Le père, il s'est cassé il y a bien longtemps, et vu l'ambiance dans la maison, quand vous lirez, vous verrez qu'on peut le comprendre. Dès les premières pages du roman, pour vous mettre dans l'ambiance, la grand-mère Yasu est à l'hôpital, car sa fille, Takato, la mère de Ai, donc, on dit peut-être « et », je ne sais pas.
Oui, c'est pour ça, Chéni, tu t'es peut-être pas beaucoup entraîné, mais je ne sais pas. Donc. Disons que la mère de l'héroïne, quoi.
La mère de l'héroïne, voilà, donc Takato, la mère de l'héroïne, vient de poignarder sa propre mère au cours d'une dispute. Un peu aviné. Ai, qui est sans le sou, va devoir payer une forte caution pour faire sortir sa mère. Quant à la grand-mère, elle sort de l'hôpital parce que, bien que poignardée, elle n'a pas grand-chose. Mais vous imaginez que la cohabitation entre ces trois femmes de la même famille va être un peu compliquée. Et, pour rendre les choses encore moins simples, et puis pour donner un peu de quelque chose de vénéneux, justement, je disais tout à l'heure, à l'intrigue, la voisine, Miyoko, ça c'est plus facile à prononcer, Miyoko va s'immiscer dans l'histoire. Charmante voisine qui prend soin de son propre grand-père, grabataire, et qui vit du coup de la pension de celui-ci. Miyoko va faire un bon dérivatif à la vie un peu terne de Ai, et c'est là que, comme je le disais deux fois déjà, le roman devient vénéneux.
Ça doit être très très... Le venin doit être très prégnant. Hein.
C'est malicieux parce que... Vraiment, tous les petits détails arrivent comme ça, on se laisse bien prendre, et puis on est surpris, au bout d'un moment, en fait, de ce qu'on vient de lire. J'en dirai pas plus de l'intrigue, pour vous laisser la lire, à part, évidemment, et là, ça spoil absolument rien, mais qu'il y aura dans ce roman, je rappelle donc, qui se passe dans la banlieue de Tokyo, la participation involontaire de la civilisation Inca, et vous verrez comment et pourquoi.
Alors, on a remarqué que ce soit dans les films d'ailleurs ou dans les romans japonais, il y a des scènes de repas assez symboliques et d'importance.
Exactement, à la fois symboliques et effectivement qui prennent toute leur importance tout au long du roman. Et là, ce sont des scènes de bouffe, si j'ose dire, qui feraient saliver Salvo Montalbano lui-même.
Alors, on rappelle que c'est le personnage principal du Sicilien Andrea Camilleri, et que s'il y a quelqu'un dont il faut évoquer quand on parle de repas et d'agape, c'est bien Salvo Montalbano.
Voilà, donc ici évidemment les pâtes, ce ne sont pas les mêmes qu'en Sicile, mais le fumet de la sauce est toujours aussi appétissant. Ce roman est très court, c'est un vrai bijou d'humour noir, ce qui n'exclut pas quelques scènes presque gore, même carrément gore. Mais au fond, il y a beaucoup d'amour. Ou du moins, une idée de l'amour dans la version ou dans la tête de l'auteur. C'est presque un roman d'amour, si on lit entre les lignes.
Un roman d'amour, mais vénéneux, tu pourrais dire.
Je ne vais pas le répéter encore une fois.
Non.
Un roman d'amour où l'amour filial est bien malmené, vous l'avez déjà compris. Quant à l'amour charnel, il se résume à quelques sauteries sinistres dans des love hotels où Ai rejoint de temps en temps son amant. Il y aura aussi quelque chose de plus ambigu entre Ai et la voisine Miyoko. Mais ça, c'est à vous de vous faire une idée plus précise. La fin pourrait décevoir certains, mais ce qui est sûr, c'est que l'auteur ne fait absolument pas une fin hollywoodienne ou disneyienne.
J'en dis pas plus.
Donc vraiment une très très belle découverte de l'atelier Akatombo.
Et je suis sûre que tu as trouvé un morceau de musique qui correspond exactement.
Oui, enfin, à peu près, disons. Pour rester dans l'ambiance de Tokyo, on va écouter un très vieux titre, enfin non pas un très vieux titre, un vieux titre de Gene Vincent qui s'appelle Michiko from Tokyo, avec du japonais un peu vu à l'américaine. Gene Vincent.
Anate watashi no kodomo. Well, I'm Michiko from Tokyo, the land of the rising sun. I'm Michiko, my Michiko, she is number one. She gave her heart to a lonely boy from across the sea. And though he's far away from home, he's as happy as can be. One guy left his geisha girl, one left his fraulein. But when I leave her here, my Michiko is gonna tag right along behind. A Michiko from Tokyo, the land of the rising sun. A Michiko, my Michiko, she is number one, yeah. She don't speak English, she just speak Japanese. My Michiko, she don't need English to know what it takes to please. Michiko, number Michiko, number Michiko, number Michiko.
Eh bien, Jacques, je crois qu'il faut que tu nous redises le nom de cette chanson, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus japonais dans tout le morceau.
Ah ben oui, oui, donc je rappelle, donc c'est une chanson de Gene Vincent qui s'appelle Michiko from Tokyo.
Ah ben avec ton accent, ça va beaucoup
J'essaye de reprendre le sien à un moment.
D'ailleurs, le roman dont tu viens de nous parler est beaucoup, beaucoup plus d'ambiance japonaise, tu peux nous l'assurer.
Ah bah tout à fait, oui, ça, il vaut mieux vous rapporter au roman qu'à la chanson de Gene Vincent.
Eh bien, il est temps de nous quitter, donc on va vous dire, selon notre formule consacrée, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Et on vous souhaite un bel été, à très vite.
Au revoir.